enfant demande ton attention, tu laisses tomber tes tâches et tu vas lui donner ton attention.
Ben voyons.
Et là, tu as une vidéo d'une maman qui est en train de cuisiner et qui laisse tout tomber pour aller voir son enfant qui réclame son attention. Puis là, je me dis, le parent qui écoute ça, puis qui a 4 enfants, ben écoute, il arrivera jamais à faire
ben,
à souper.
C'est mission impossible.
Tu sais, je veux dire, il peut pas faire à souper, il y en a tout le temps un qui veut quelque chose.
Rendu là, il peut y donner, là.
Ben, je veux dire, oui, c'est ça. Fait que là, tu dis, hey, mais là, j'ai pas le temps de faire à souper parce qu'il faut que je donne l'attention à chacun des enfants qui en veut, à chaque fois qu'il en veut. Sinon, je vais y scraper. Mais en même temps, il faut que je cuisine santé parce que là, il y a quelqu'un, quelque part, qui nous a dit que si je leur faisais manger de la nourriture transformée, je scrapais leur microbiote. Fait que, tu sais, à un moment donné, des fois, oui, il y a des pressions qui sont mises, qui manquent sincèrement de nuances. Est-ce que c'est correct de donner de l'attention à mon enfant? Oui. Est-ce que c'est correct de le faire attendre quand je suis en train de faire rissoler des légumes? Oui. Même s'il a 3 ans. Est-ce qu'il va trouver ce rough? Oui.
Si un parent se reconnaît là-dedans, puis je vois les textos entrer de monde qui sont comme « Amen! » dans cette fatigue-là, dans cette pression-là, c'est quoi les petits changements qu'on peut mettre en place rapidement, mettons, dès demain, là, pour essayer d'aider une couple de parents? Je sais que tu as un défi 7 jours aussi à proposer aux parents, là, pour cesser d'être trop réactifs, justement, quand peut-être ces gens-là sont fatigués.
Oui, bien, tu sais, très rapidement, là, souvent, ce que je vais suggérer, c'est, bien, premièrement, arrêtez de répondre à vos enfants quand ils vous crient par la tête. Tu sais, quand un enfant réclame quelque chose tout croche, on peut, avec beaucoup de légèreté et d'humour, de dire « Hé, hey, bobo, quand tu cries, moi, j'entends pas. Oh, hey, écoute, demandez de même, ça me tente pas pantoute. » Tu sais, arrêtez d'obéir au doigt et à l'œil à vos enfants. Acceptez qu'ils vivent certains inconforts. Acceptez de leur dire non. Hey, ça, c'est une autre affaire. Il y a des intervenants qui disent « On ne devrait jamais dire non aux enfants. »
Oui, c'est une mode, ça.
Hey, moi, je capote. Il y a des gens qui disent « Leur cerveau est incapable de comprendre le non avant l'âge de 7-8 ans. » C'est totalement faux. Mon chat comprend le nom, Boswell. Je veux dire,
t'as raison.
C'est demander à n'importe quel orthophoniste, ouais. La capacité à comprendre la négation arrive vers l'âge de 8-10 mois.
Puis quand la première fois que tu te fais dire non, c'est quand tu rentres à l'école. Là. Ça crée des belles situations.
Ben, ça crée des situations explosives. Et ces intervenants-là disent, vous devriez toujours trouver une alternative positive à un interdit. Fait qu'au lieu de dire non, on frappe pas, dis-le avec des mots. Ouais, mais je te dirais que grosse conne, c'est des mots aussi.
Ben, c'est ça, fait que c'est pas des mots acceptables, là.
Fait que tu sais, Et pour un enfant d'un an, ça va être pas mal plus facile de comprendre « non, on tape pas » que « exprime »
Écoute, mon petit chou, je pense que tu n'aurais pas dû, nanana. On voit ça, puis tu sais, on veut pas juger les autres parents, là.
Ils pensent faire la bonne affaire, mais
oui, puis ça vient vraiment d'une bonne intention, parce que, comme on disait tantôt, on veut éviter toute peine puis tout inconfort
ben, oui.
à notre enfant,
on
mais on leur rend pas
service. Bienveillant, c'est ça. Mais rappelons-nous que d'être bienveillant, c'est vouloir le bien d'eux.
Ouais.
Et pour le bien de mon enfant, il faut qu'il en entende des interdits. Il faut qu'il voit des fois que maman n'est pas contente parce que je vois son gros nerf pendant 1 heure.
Ouais.
Il faut que... Puis là, je ne parle pas de crier sur nos enfants. Là. Je parle des fois de sortir notre gros voix puis de dire « Hey, là, wow, ça suffit. »
Mais
tu
ne
la
limite.
Trouves plus drôle.
Ouais.
Tu arrêtes. C'est stop. Et c'est correct. Puis là, l'enfant, quand on lève le ton puis qu'il n'est pas habitué qu'on lève le ton, il vient les yeux pleins d'eau puis il nous regarde. Et je vais peut-être le consoler après. Là. Je vais dire « OK, j'ai levé le ton, c'était pas le fun. Maintenant, on va s'enligner sur autre chose. » Donc, accepter de faire vivre des frustrations, accepter de faire vivre des délais. Mais tout ça en alternance avec « ben oui, quand tu m'exprimes comme il faut ton besoin, je vais prendre le temps de t'écouter. Oui, je vais t'en donner de l'attention positive. Oui, ça va m'arriver d'essayer de reformuler mes choses de façon plus positive que via des interdits et des noms.
Ouais. »
Fait que tu sais, des fois, tu vas avoir des interdits, puis des fois, je vais rediriger ton action. Puis des fois, ça va être « non, tu fais pas ça, je veux que tu fasses ça à la place. » Reprendre une saine posture d'autorité. T'sais, c'est comme si je trouve qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Là.
Ouais,
c'est comme
ouais.
On veut être dans la bienveillance et dans les approches
c'est tout
positives.
Ou rien.
C'est cool, mais ça ne veut pas dire de ne plus être en posture d'autorité. Puis il y a une saine hiérarchie. Là.
Nancy, ton défi pour les parents 7 jours se retrouve sur ta page SOS Nancy.
Exact. Ça commence dimanche matin. On a une première conférence de 2h, 10h à midi où on va regarder justement c'est quoi la saine posture de parentalité, la saine posture de leadership parental dans la fermeté bienveillante. Puis après ça, pendant 7 jours, les gens reçoivent, 6 autres jours, là, Les gens reçoivent tous les matins une petite vidéo avec un outil, un défi à faire avec leurs enfants ou de leur côté. Puis on termine après ça avec un autre webinaire.
Nancy Doyon, c'est toujours un plaisir, coach familial. Chaque fois que je vois les gens réagir, je me dis, regarde, on va vous remettre ça sur le blvd.fm. En passant, si jamais vous avez envie de réécouter ça, vous venez d'arriver. On se retrouve bientôt.
Yes, à bientôt.
Vous êtes dans Gravel dans le retour jusqu'à 18h. On est ensemble, on revient dans les prochaines minutes. Tour de news. Gravel. minutes, vous êtes dans Gravel dans le retour. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Je m'appelle Audrey, on est ensemble jusqu'à 18h. Denis Gravel qui est en relâche jusqu'à lundi prochain. Évidemment, Véro Bergeron est là. Antonine Iaccarini est là également pour la semaine. Présentement, 4 degrés sur Québec. Alternance de soleil-nuages. Je regarde dehors présentement. L'impression qu'on va avoir un beau coucher de soleil.
Alternance nuage-nuage, je trouve.
Oui, mais il y a quand même un beau trou potentiel où il y a du petit bleu, puis le soleil peut se coucher de façon admirable. Tu sais, des fois, c'est cute.
Hein?
J'essaie. Il faut de temps en temps. J'essaie fort. Ce soir et cette nuit, on est à moins 10. C'est neige intermittente mêlée de pluie. Ça va être wash un peu. Pour ce qui est de demain, le soleil qui serait de retour avec 1 degré en alternance soleil-nuage. Samedi, va pleuvoir 10 degrés. Il va faire chaud, mais ça va être lait. Une vraie journée de printemps. Pour ce qui est de dimanche, 6 degrés alternance soleil-nuage. Et lundi, on est aussi en averse avec un 6. On est pas mal au-dessus de zéro pour les prochains jours à Québec. Dans la circulation, c'est vraiment une de ces journées-là épouvantables. Ça lâche pas depuis le début de l'émission. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne. Ouest, hauteur Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, c'est entre Charest et la capitale surtout. Henri IV Sud, à partir de Wilfrid Hamel jusqu'à l'entrée des ponts, c'est vraiment horrible. Là, vous êtes probablement bumper à bumper parce que ça lâche pas du tout. Évidemment, si vous avez des détails, toujours le 418-971-1021. Duplessis Sud, c'est de Charest au pont. Quelques problèmes d'ailleurs sur Charest Ouest à la hauteur de Duplessis. Drôlement, la rive sud, ça va super bien. Il y a peut-être un léger ralentissement si vous êtes sur la 20 direction Ouest. Hauteur, chemin des îles. Évidemment, s'il y a autre chose, c'est toujours le 418-971-1021. Meilleure façon de nous rejoindre. Texto, ça c'est le texto. Le téléphone, c'est le 418-780-1021. Il y a le Twitch sur lequel on est connecté en semaine, twitch.tv/blvd/FM, super belle communauté. Et il y a nos différentes plateformes, évidemment, de médias sociaux, la chaîne YouTube, il y a également le Facebook, le Instagram, X, Twitter. On a TikTok même, sur lequel on met des extraits d'entrevues de temps à autre. Et il y a... ça fait-tu pas mal le tour? Je pense que oui.
Hein? On a MySpace, on a ICQ, on a MIAX.
Hey, tu ris, Véro, mais on est encore sur Blue Sky qui a eu comme 3 semaines de popularité l'année dernière.
Généreuse, 3 heures.
Et ça n'a pas été long, mais on a eu le temps de s'en faire un. Puis il y a encore des affaires qui se promènent là-dessus, là, drôlement.
Il y a quelques politiciens, en passant, qui sont juste là-dessus. Hein?
Oh oui, mais moi, je l'ai
ils
encore,
sont pas revenus sur X, là.
Non, non. Puis honnêtement, les grands médias ont gardé leur activité sur cette plateforme-là pour les gens qui y sont.
Tu me l'apprends parce que moi, c'est des toiles d'araignée, là, mon compte.
Écoute, des fois, je me connecte sans faire exprès. Là, j'ai comme mes icônes qui sont pinées là, sur mon ordi, là, puis Twitter puis Blue Sky sont l'un à côté de l'autre. Là, puis je vois encore des bébelles de TVA, Radio-Canada qui sont publiées quand il y a des notifications qui pop.
Mais c'est j'ai pas, encore l'app sur mon téléphone. Je pourrais la retirer.
Ah, je pense aussi. Oh, fais-toi de l'espace.
Un petit ménage, là.
Fais-toi de l'espace. C'est
non, elle est partie toute seule, je crois.
Elle est partie! Ah ouais? Non, moi, je l'utilise encore de temps en temps. Écoute, de temps, il y a des petits sujets de temps en temps qui pop, qui peuvent être intéressants. Mais bref, on est même là-dessus pour vous donner une idée. Fait que si vous cherchez Boulevard, là, il y a moyen de nous trouver assez rapidement.
Il y a eu le temps de changer le visuel.
Arrête, toi.
Ils disent connexion. Je me souviens plus de rien là-dessus.
Ça a été très, très, très éphémère. Hey, 16h14, on va prendre le temps de faire le tour des grandes actualités, voir ce qui se passe, ce qui se brasse, comme Denis dirait dans l'actualité, les news. Véro?
Oui, quand même pas mal de stock aujourd'hui, je vous dirais peut-être commencer en vous parlant du prix de l'essence, de ce qui se passe dans la région de Québec et ailleurs. Puis peut-être que vous l'avez entendu dans l'émission On en jase ce midi, mais Pascal en a glissé un mot. Des pénuries dans certaines stations d'essence qui se sont produites hier parce que les gens craignaient tellement la hausse qui s'est concrétisée par un 15 à 20 cents d'augmentation le litre dans plusieurs stations-service de la région de Québec qui se sont garrochées carrément dans les différentes stations-service. La plupart qui avaient des livraisons ce matin, fait que ça s'est réglé. Mais c'est l'espèce de papier de toilette gate qu'on a vécu en pandémie. Puis le journal nous rapporte que c'est pas juste ici, mais qu'aussi en Europe, en France, en Suisse, entre autres, il y a des gens qui se sont garochés pour tenter de faire le plein en se disant il y a une hausse qui s'en vient. On craint même au Québec le 2 $ le litre.
C'est fou la panique qui nous envahit.
Mais
hein?
C'est surtout que tu peux pas faire de réserve.
Non, c'est ça.
Une fois que tu as rempli ta tank, là. Il va falloir que tu retingues la semaine prochaine.
Tu peux t'acheter des galons, bidons puis ouais. Remplir ton cabanon, mais je ne suis pas sûr que c'est très sécuritaire de garder des tonnes d'essence chez vous.
C'est effectivement terriblement risqué. Puis les impacts vont paraître d'autres manières, de toute manière, au courant des prochaines semaines sur les transports, les aliments, etc., etc. Mais dans la région de Québec, les derniers chiffres qui circulaient, c'était du 1,56,9, alors qu'hier soir, on était en deçà de ce chiffre-là. Reste à voir si ça va continuer de monter. Il faut savoir que ça ne bouge toujours pas du côté du détroit d'Ormuz pour ce qui est des pétroliers dans ce secteur-là. Pendant ce temps-là, du côté de la Maison-Blanche, on a indiqué un petit peu plus tôt cet après-midi que l'armée américaine était proche d'un contrôle total du ciel iranien. Que ça devrait se faire dans les heures qui viennent, qu'on maintient qu'on est en position de force dans la guerre contre l'Iran. C'est ce qui a été affirmé un petit peu plus tard par Donald Trump. Plus près de nous, on attendait après ça, mais l'Italie qui a autorisé l'extradition de Dave Pick-Turmel le 2 mars dernier, donc il y a deux jours de ça. C'est une première étape pour tenter de ramener au Canada celui qui était à la tête de la Blood Family Mafia, qui a été arrêté à la fin du mois de mars l'année dernière après plusieurs mois de cavale, alors qu'il y avait des mandats d'arrestation contre lui pour trafic de stupéfiants, complot et agression armée avec lésion. Là, il y a 15 jours avec son avocate pour peut-être décider d'aller en appel de cette décision-là. Il y a quand même le gouvernement italien qui doit faire certaines procédures pour permettre le rapatriement. Puis une fois que tout ça sera autorisé, bien, c'est le service de police de la Ville de Québec qui ira le chercher. Vous comprendrez que les enquêtes se poursuivent. Il y a de bonnes chances qu'à son arrivée au Québec, il y ait d'autres chefs d'accusation qui soient déposés contre lui parce qu'actuellement, les chefs des mandats, c'est très minime pour le rôle qu'il semble avoir joué dans la guerre que se livrent actuellement les Hells puis le BFM pardon, pour le contrôle du trafic de drogue.
Saviez-vous que l'essence passe date? On vient de nous dire par texto, ça passe date de l'essence en plus.
Ça fait combien de temps?
Je serais curieuse. 971-1021 pour vrai. On va aller checker avec ChatGPT parce que je me rends compte qu'il y a une couple de personnes qui ont des quatre roues, des motos, puis qui gardent des petits galons dans leur garage. Là.
On a un collègue tantôt qui nous a fait un cadeau empoisonné. C'est une histoire qui s'est retrouvée de nouveau devant le palais de justice aujourd'hui, celle de Martin Bellavance. On s'était déjà parlé de ça. C'est un ancien enquêteur de la SQ qui s'était fait pogner en janvier et en février 2024 on nous disait lécher les bottes d'une dame dans les estrades lors de compétitions de cheerleading au centre des congrès. Mais le collègue en question nous a montré ça. Je suis désolée pour le visuel, mais l'homme têtait des gros talons carrés de bottes.
Ah oui. Il frenchait la chaussure.
Ah, littéralement. Grand coup de langue.
Ouais. C'est pas juste le petit bout de langue.
C'était appuyé et têté longtemps. Ça prenait de la place dans sa bouche.
T'as le temps de voir le tartre dans le fond de la langue. C'est vraiment, ça n'a pas de bon sens.
À l'époque où ça s'est déroulé, il y a quelqu'un qui, la première fois, avait vu ce qui se passait, avait filmé et le témoin avait donc pris des images de ça, ce qui avait permis, entre autres, de le retrouver plus tard. Mais lui, Martin Bellavance, avait récidivé à une deuxième reprise. Puis le même témoin l'a vu. Il y a une entraîneuse qui est allée le voir, il s'est sauvé, on a pris une photo de lui. Et ensuite de ça, on a demandé à la population « Hey, nous recherchons ce licheux de bottes qui a été spoté très rapidement. » Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas si c'est ses collègues du côté de la SQ qui l'ont dénoncé. Le tête-talon, il travaillait comme enquêteur au renseignement criminel.
C'est ça le pire, c'est qu'il y a une job avec une autorité quand même, un prestige.
Puis on a un billet quand vient le temps. Tu sais, nous autres, on va vous le dire, là, on juge les criminels au palais de justice. Ils ont-tu la tête de l'emploi? Ils ont-tu pas la tête de l'emploi? Puis, tu sais, souvent, entre autres, on reçoit souvent Judith Demeul, qui est chroniqueuse judiciaire au Soleil. Puis, quand c'est hors norme, elle va nous le mentionner. Tu sais, je me souviens d'une histoire de violence d'une femme envers des enfants, puis c'était bien, elle nous l'avait bien mentionné. C'est une femme avec un poste supérieur dans une bonne compagnie, etc., etc., pour éviter qu'on ait ces préjugés-là de quelqu'un qui fait des crimes de même. Bien, c'est sûrement quelqu'un qui n'a pas de job, qui vient d'un milieu
qui est moins nanti
ou avec moins d'éducation. Des bizarres, il y en a dans tous les, dans toutes les sphères de la société.
Dans toute la hiérarchie.
Et c'est le cas de Martin Bellavance. Lui a donc plaidé coupable aujourd'hui à une infraction d'action indécente. On a abandonné une accusation de voie de fait, vraisemblablement pour s'assurer qu'il plaide coupable. Son dossier va revenir devant le tribunal en juin prochain pour ce qui est de la peine. Un peu plus tard, notre journaliste sur le terrain, Mathias Turcotte, qui va venir s'asseoir avec nous. Il y avait une mêlée de presse du maire Marchand. Plusieurs sujets qui ont été abordés, entre autres. Il aurait parlé directement au cabinet de Mark Carney, premier ministre canadien, pour ce qui est du financement du tramway. A aussi répondu à l'inquiétude sur la réorganisation des parcours du RTC dans Vanier, en assurant qu'on révisait des parcours, mais qu'on s'assurait que les services demeurent le plus possible. Mathias va nous parler de ça. Mais il faut vous rappeler aussi que demain, 10h, on va annoncer la version finale du plan Saint-Roch, dont ce qui a coulé un peu plus tôt dans le journal aujourd'hui, le 200 000 $ pour améliorer l'éclairage urbain. J'aimerais saluer la Ville de Lévis qui tient un point de presse en même temps. Un brefage sur les stations de traitement des eaux, un sujet dont on a parlé énormément dans les dernières semaines.
C'est une drôle d'idée.
Oui, mais la Ville de Lévis a aussi un autre point de presse qui est prévu le 11 mars, son plan pour le moratoire. Comment on va fonctionner pour les prochaines étapes. Et le 11 mars, il y a aussi le Festival d'été qui annonce sa programmation. Fait qu'on dirait que Stephen Blainey aime être dans l'ombre des grandes annonces, qui est peut-être pas un choix judicieux pour la ville.
C'est les mêmes journalistes qui couvrent les deux, là.
C'est les mêmes journalistes qui couvrent les deux. Puis c'est la place aussi que tu vas avoir dans les médias. Puis je sais pas si c'est le manque d'expérience de l'équipe autour de Stephen Blainey, alors que pourtant, il y a un directeur général qui a travaillé sous l'ancienne administration qui doit avoir un petit peu d'expérience politique.
On dirait que ça n'est pas... On dirait... Je serais surprise que ce soit voulu parce que c'est pas tellement stratégique.
Bien, des fois, tu veux passer sous le radar.
Tu sais, quand il y a des... Tu as déjà entendu parler des éclipses médiatiques. Tu sais, comme entre autres, si par exemple, d'ici vendredi, le Canadien de Montréal fait une gigantesque transaction avec la date limite des transactions qui s'en vient, tu vas comprendre que si le gouvernement a de mauvaises nouvelles à annoncer, s'il y a une grande entreprise qui a beaucoup de mises à pied à faire, souvent, on va se timer. Puis actuellement, cette semaine, il y a probablement des communiqués qui sont sur le back burner et qui attendent juste un moment comme celui-là pour l'envoyer.
Mais toi, là, Véro, avec toute ton expérience, tu le sais, quand il y a une éclipse médiatique, tu vas voir les communiqués du gouvernement.
Absolument.
Parce que tu trouves des petits trésors. Des c'est petits la journée des vidanges.
Mais je trouve ça tellement niaiseux parce que c'est là que tu communiques avec les gens. Fait que j'ai comme l'impression que toi-même, tu retires ce canal-là pour rejoindre ton monde.
Oui, mais si c'est des mauvaises nouvelles...
Non, je comprends.
Tu veux pas que ça te teinte, tu veux que ça passe en dessous du radar, tu veux pas que ça fasse la une des journaux. Puis à chaque fois, ça arrive. Fait que t'as bien beau aller chercher la petite perle puis essayer d'en parler... Toi, tu te fies que le bruit ambiant, ça va être la grosse nouvelle, puis toi, tu vas être juste un gazouillis en arrière qui va avoir moins d'impact sur
ton
image.
Ça va passer dans le bar, même si t'en parles. Mais, tu sais, nous aussi, on peut mettre des affaires sur le back burner puis en reparler dans quelques jours quand ça s'est calmé. Hein. Alors, on les connaît, les trucs, là, aux équipes de communication.
Exactement. Salutations à la ville de Châteauguay. Tu sais, on parle souvent de nos infrastructures qui viennent à bout d'âge, puis on a des inquiétudes à Québec. Tu sais, le pont de l'île d'Orléans est en train de se faire remplacer, alors que sa date de péremption, c'est plus proche d'un yogourt qui est déjà passé date qu'autre chose. Je ne sais pas si vous avez
vu.
Si vous avez vu l'article que je vous ai envoyé, mais c'est un trou béant qui s'est ouvert sur une portion du tablier du pont La Sauvagine à Châteauguay. Mais quand je vous parle de trou béant, tu sais, l'espèce d'armature de métal qu'il y a à l'intérieur du béton, elle paraît au grand complet.
Oh,
c'est gigantesque comme trou.
C'est rassurant. Hein?
Donc, tu sais, je comprends que ce n'est pas dans notre hood. Mais ça peut justifier le fait qu'on s'inquiète de la manière dont on gère nos infrastructures au Québec. Et en terminant, je sais que le sujet est lourd, mais vu que c'est quelque chose qu'on a acquis dans les dernières années au Québec, puis que je pense qu'il faut s'assurer de bien faire les choses pour conserver ce genre d'acquis-là, c'est une coroner du Québec qui demande un meilleur soutien et de meilleures ressources en santé mentale pour des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, il y a des règles qui sont très strictes. Quand quelqu'un en fait la demande, ça doit être une maladie qui est dégénérative, ça doit être une situation qui est irréversible. Dans certains cas, on espère même que ce soit une mort imminente. Il faut que la personne ait encore toute sa tête pour pouvoir accepter la journée même, quoi qu'on est en train d'amener certaines nuances pour les gens qui souffrent de démence, de maladie d'Alzheimer, de tout ce qui est dégénération cognitive. Dans ce cas-ci, par contre, elle soulève le cas d'un homme de 91 ans. Lui vivait dans une résidence privée pour aînés de Pointe-Claire. Il s'est enlevé la vie après s'être vu refuser sa demande d'aide médicale à mourir. Le hic, c'est que l'homme n'avait pas de maladie qui justifiait qu'on accepte sa demande, mais qu'au fil des années, ça c'est dans le rapport de la coroner Julie Kim Godin, il avait parlé à plusieurs professionnels de la santé de ses difficultés liées au deuil, au vieillissement et qu'il avait des pensées suicidaires. Fait que lui, sa raison pour demander l'aide médicale à mourir, c'était suite à une tentative de suicide antérieure et quand on lui a refusé... On est beaucoup plus, effectivement, dans la santé mentale.
C'est touché, ça.
Et ce que la coroner a dit, c'est qu'il n'y a aucun plan de soutien qui n'a été mis en place pour aider cet homme-là, malgré des demandes d'aide répétées. Puis là, je ne vous demande pas, je ne vous parle pas d'aide médicale à mourir, des demandes d'aide. Il a verbalisé qu'il avait des intentions.
Il avait besoin de soins en santé mentale.
Exactement.
Il n'en a pas reçu.
Puis, tu sais, c'est à se demander, est-ce que les gens, parce qu'il y avait 91 ans, ont simplement abandonné, ont comme, j'ai aucune espèce d'idée, mais c'est qu'aucun accompagnement concerté et adapté à ses besoins ne semble avoir été instauré.
T'es seule quand même en plus
c'est
à cet
capoté,
âge-là.
Là.
91 ans, des fois, t'as perdu ta partenaire de vie, des fois, il y a peut-être des enfants même qui sont perdus, tes amis.
Oui, c'est comme si après lui avoir donné son nom, c'était comme, OK, va vaquer à tes occupations, puis il n'y a rien qui a été mis en place pour surveiller ni son État, ni soutenir activement sa sécurité. Fait qu'on demande à la province de mettre en place quelque chose pour s'assurer. Moi, dans ma tête, c'est logique, mais faut croire que...
De donner de l'aide, tu
exact,
veux dire?
Ouais, exactement.
Mais on manque de services en santé mentale.
Tout à fait.
Épouvantable.
Mais quand quelqu'un vient demander l'aide médicale à mourir pour une souffrance psychologique, moi, c'est drôle, je pensais que
rouges,
ça allait de soi,
aussi,
que tu étais référé.
Qu'on avait des mécanismes.
Mais non.
Seriez-vous pour l'aide médicale à mourir quand on parle de détresse
absolument
mentale
pas
à partir d'un certain
absolument
âge?
Absolument pas.
Non?
Non, parce que c'est des soins dont les gens ont besoin. Puis si on dirige les
mais
gens
mais ça règle
vers...
pas la solitude, souvent. T'sais, quand tu parles de quelqu'un qui est dans le 90, qui n'a plus grand monde autour de lui, puis tout ce qu'il fait de ses journées, c'est marcher dans son salon.
Je pense que comme société, on est capable de trouver des solutions
pas
à la solitude
capable,
de nos aînés.
Pas juste capable, on doit...
Ben non, oui. On se doit absolument.
On se doit de le faire. Je pense qu'on erre énormément là-dedans, qu'on se dégage comme si, notre job est fait. Il a été un actif pour la société pendant tant d'années. Là, il est sur son dernier droit, puis on laisse beaucoup aller ça. Ça m'écœure énormément. Puis il y a de la famille qui laisse aller. Il y a l'État qui laisse aller, puis il va falloir se regarder dans le miroir à un moment
on
donné.
Dirait que puis 88-971-1021, je ne sais pas vous situez où par rapport à ça, mais on dirait que ma pensée par rapport à l'aide médicale à mourir a tellement évolué, parce que plusieurs années, quand on en parlait beaucoup, on dirait que moi, j'étais totalement en contre, à tous les niveaux. Ah, oh, mon Dieu, je trouvais ça épouvantable. J'avais comme l'impression que ça ne faisait pas de sens, c'était pas naturel. On dirait que dans ma tête, c'était... Puis plus le temps a avancé, il y a des documentaires qui ont été faits qui sont poignants, où tu comprends un peu les dessous du pourquoi certaines personnes le demandent. Il y a des départs qui se sont faits en paix, remplis d'amour. Il y a des gens proches de ma grand-maman, moi, qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Puis là où j'ai compris à quel point ça pouvait faire un sens, c'est il y a un an et demi, j'ai perdu mon grand-papa, puis lui, ça a été une question de jours. Il était conscient.
C'était précipité.
Après 4-5 jours, il n'était plus conscient. Fait que ça va excessivement rapidement, des fois, l'espèce de petite fenêtre grosse de même là, que tu as pour un consentement. Là. Et des fois, je souhaite pour lui. J'aurais aimé qu'il puisse la demander. Fait que je sens qu'il y a
pour éviter la portion de souffrance où
ben
il n'était plus en mesure de consentir
de
à quoi que ce soit.
De voir des affaires dans ta chambre d'hôpital, la souffrance aussi des proches par le fait même.
Puis, au-delà des histoires très humaines qu'on commence à tous avoir, hein, parce qu'avec les années maintenant que la loi est en vigueur, ben évidemment, on cumule des gens autour de nous, des amis qui ont vécu ça avec leur famille, etc. Il faut quand même rappeler le contexte dans lequel cette loi-là a été adoptée. C'est des années. C'est une loi qui a été pensée. C'est une commission transpartisane qu'il y avait à l'Assemblée nationale.
Portée par Véronique Yvon.
Notamment portée par Véronique Yvon, qui est considérée comme la mère de cette loi-là. Mais tu sais, on parle là, d'un processus là, de 7 ans, là, de consultation, de s'assurer de vraiment bien faire les choses.
C'est nécessaire. Là.
Et le droit à l'aide médicale à mourir, c'est venu aussi avec un droit aux soins palliatifs.
Oui.
Donc, disons que toi, tu ne veux pas avoir l'aide médicale à mourir, bien, cette loi-là, elle a aussi apporté un droit inaliénable à avoir des soins de fin de vie. Donc, il y a vraiment... C'est pas juste, ah, oh, ben tu sais, maintenant, on se débarrasse des gens puis on abrège leurs souffrances.
Parce qu'il y en a qui se promenaient beaucoup avec cette pancarte-là. Souvent, c'était lié à certains groupes qui étaient plus religieux, de dire, hey, c'est de l'euthanasie, alors que...
On a eu une approche complètement différente au Québec qui a fait école, qui est montrée comme exemple un peu partout dans le monde, comme une bonne manière de fonctionner.
Mais est-ce qu'on travaille encore là-dessus en ce moment? Puis à quel niveau, si oui?
Oui, on continue de travailler là-dessus parce qu'il y a eu tout le débat par la suite, justement, avec les maladies d'Alzheimer, la démence. Mmh. Comment on pourrait faire pour que ces personnes-là puissent donner un consentement anticipé? Et c'est quand même des questions assez compliquées. Là. Toi, tu te dis, ben oui, moi, je vais signer un document.
Mais tu ne seras pas capable de dire à partir de quand tu le souhaites.
Puis tu ne peux plus vraiment changer d'idée quand tu n'as plus ton consentement. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier. Mais encore une fois, on prend notre temps pour bien faire les choses.
Tu sais, il y a tout le temps le risque. Puis ça fait partie du débat. Une personne qui a des problèmes cognitifs pourrait se retrouver à vivre le moment dans un instant où elle n'a pas de lucidité et où la panique pourrait embarquer. Tu sais, il y a même pour
les... T'écoutes-tu? Parce que tu peux jusqu'à la dernière seconde faire arrêter les soins. Fait qu'est-ce que t'écoutes le patient?
Fait que c'est pour les médecins, pour l'entourage, c'est un poids qui est immense, même si tu connais la situation. C'est pour ça qu'actuellement, on continue d'avancer là-dedans. Puis ça touche une frange de maladies qui est beaucoup plus difficile à déterminer. Puis tu sais, au Québec, il y a deux personnes qui avaient travaillé très, très fort là-dessus. C'est deux personnes qui étaient atteintes de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Puis c'est des gens, ils savaient, leur fin arrivait, il y avait des souffrances immenses, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Il y a une des deux personnes qui n'a même pas pu en profiter, qui est décédée auparavant. Mais c'est des gens qui avaient leur tête jusqu'à la fin. Fait que là, quand on parle d'Alzheimer, quand on parle de démence, on n'est pas dans le même créneau du tout, sauf que il y a une dame de Québec qui souffre d'Alzheimer précoce. Il y a eu des documentaires sur elle qui ont été faits, entre autres, à Radio-Canada. Elle sait exactement ce qui l'attend parce qu'il y a ses proches qui sont décédés de ça et c'est ce qu'elle veut éviter. Fait que c'est là que ça devient très touché.
Oui, puis tu sais, est-ce que tu le fais avant que ça dégénère? Il y a ça aussi. Est-ce que vous seriez bien avec une décision d'un proche comme ça? Votre père, votre mère, demain matin, vous annonce que j'ai choisi une date?
Bien, je pense que je serais bien avec le principe.
Mais
rendu
très difficile.
Au moment, ça doit être extrêmement difficile. Et de toute façon, c'est toujours difficile, je pense, les fins de vie, là, que ce soit dans ce contexte-là ou dans des contextes de soins de fin de vie, c'est des moments qui sont d'une grande, grande intensité. C'est très challengeant pour les proches.
Assurément. Tu vois, il y a Caroline qui nous dit, pour l'avoir vécu avec mon père, cette façon de faire est une nécessité. Maintenant, on peut signer le consentement d'avance pour le jour J choisi. Mm-hmm. Il y a Vincent qui nous dit, 2018, ma petite sœur qui avait 30 ans, cancer terminal partout, devenait paralysée, n'allait plus être capable de parler avant de devenir incapable de tout. Elle a eu l'aide médicale à mourir et est décédée dans la paix avec nous. Elle a même fait des blagues. On a ri avant le départ. Ça nous a énormément aidé à vivre ce décès-là qui est tragique parce que les dernières images que tu as, elles sont positives.
Il y avait eu un épisode de Garde 24/7 à Télé-Québec qui portait là-dessus. Puis, mon Dieu, c'était à la limite inconfortable d'être dans l'intimité des gens qui avaient accepté de nous présenter ça. Mais je pense que quiconque a encore une partie de lui qui dit « Moi, si un proche fait ça, je vais être en maudit. » Je pense que ça fait avancer beaucoup.
Bien, il y a un documentaire qui s'appelle « Un dernier été ».
Oh mon Dieu, oui.
J'y vais vraiment de mémoire. Là. Je me souviens plus si c'est Télé-Québec ou si c'est tout.tv. Là. Je ne sais pas, Véro, si tu peux regarder, mais moi, tu vois, c'est un des documentaires qui m'a donné assez de frissons pour que je me revire de bord sur ma pensée. Cet homme-là, justement, allait vivre un dernier été. Il y a des membres de sa famille qui l'ont tellement mal pris. D'autres qui l'ont accompagné là-dedans. Au final, tout le monde était autour de lui au moment venu. Mais tu étais capable de t'identifier à quelqu'un dans cette histoire-là. Puis j'ai trouvé ça tellement généreux que cet homme-là nous laisse vivre ce processus-là.
C'est un été pour dire adieu.
Un été pour dire adieu.
C'est sur tout.tv.
Et si, j'en ai des frissons, là. Si je me souviens bien, là, le jour où c'était diffusé pour la première fois, il était comme décédé dans la fin de semaine avant, quelque chose comme ça, ce qui ajoutait une dimension, mon Dieu. Mais vraiment quelque chose de top à voir. Ici, aide médicale à mourir. J'ai accompagné ma maman en 2023 suite à un cancer fulgurant. J'étais tellement en colère au départ parce que j'ai perdu ma sœur par suicide et j'avais l'impression que l'histoire se répétait. Au final, ça a été une expérience positive, entre guillemets, malgré tout. Et ma mère a pu vivre sa délivrance, comme elle disait, auprès de ses frères, sœurs, enfants, mon père. Je pense que c'est là que des fois ça vient adoucir, c'est de sentir que c'est une décision prise par ton proche qui souffre tellement, qui a envie de vivre son dernier moment de façon positive. Tu sais.
Bien, ça donne une espèce de contrôle sur ce moment-là.
Oui.
T'sais alors que tu trouves que la vie a été injuste.
Oui.
Puis t'as justement, malgré tout ce que tu vas avoir fait dans ta vie, la maladie s'acharne. Fait que ça doit amener un certain apaisement.
Gars, tu vois, je vais terminer avec ce texto-là parce que je trouve que ça ouvre une autre porte. Puis on va continuer de vous lire en passant pendant la pause. Je vous posais la question quand Véro nous a parlé de la nouvelle sur cet homme-là de 91 ans qui s'est enlevé la vie malheureusement après avoir été refusé à l'aide médicale à mourir sans maladie
parce qu'il
quelconque.
Voulait mourir, ouais.
Exactement. Puis je vous posais la question à savoir si vous seriez à l'aise qu'on rende possible l'aide médicale à mourir pour quelqu'un qui a des troubles mentaux. Et il y a quelqu'un qui nous dit quand tu es seul, tu es dépressif, sans objectif futur, santé so-so à 80, les gens méritent aussi de partir en dignité et non mort de chagrin ou solitude. Notre égo ou égoïsme de les maintenir en vie sans s'en occuper s'arrête où? On manque de ressources et les jeunes ont besoin de deux jobs pour joindre les bouts. C'est une autre façon de voir les choses, mais j'ai l'impression que ça, c'est une pensée qui va peut-être évoluer avec le temps.
Il y a des personnes âgées aussi qui font simplement faire des refus de soins.
Absolument.
Ça aussi.
Mais ça, mais encore ça une avant, fois, hein? faut que mais ce soit
avec mon grand-papa.
Accompagné.
Ben oui.
Il faut qu'il y ait une sensibilité. Quand il y a un appel à l'aide, quand il y a une détresse, il faut que ces choix-là soient faits en toute connaissance de cause et non pas parce que quelqu'un a été abandonné.
Éric nous propose un bon film là-dessus, si jamais. Ça s'appelle « Moi avant toi » qu'il nous suggère. 88-971-102. On continue de vous lire. Super intéressant. Au retour de la pause, il y a Mathias Turcotte, qui est notre journaliste terrain, qui vient nous présenter quelques extraits qu'il a pris au scrum du maire Bruno Marchand un peu plus tôt aujourd'hui. Vous êtes dans Gravel dans le retour. On revient dans quelques instants.
Pour joindre l'équipe, rencontrez-en un qu'il fera. Équipe marcantoinereid.com.
Il y a quand même des belles températures à venir en fin de semaine. Une belle journée qui s'annonce dimanche. Pourquoi pas sortir un peu dans les espaces portuaires? Je pense au Village Nordique, une expérience inoubliable faite par le Port de Québec. C'est situé dans le bassin Louise, un espace familial qui vous permet de taquiner la truite sur glace avec tout l'équipement qui est fourni, accompagné de guides pêcheurs aussi expérimentés pour vous conseiller, assurer votre sécurité. Vous pouvez aussi profiter d'un espace chaleur convivial, d'animation pour les petits et grands, d'un service de restauration. Donc, que ce soit en famille, entre amis, en groupe, le Village Nordique du Port de Québec, c'est l'endroit idéal pour vous amuser, vous réchauffer, célébrer l'hiver québécois. Il faut prendre l'air. Antonine l'a dit plus tôt aujourd'hui, là. Sortir dehors, prendre l'air, ça fait du bien à tête. Faites-le. Il n'y a pas juste en passant le Village Nordique. Il y a la Disco Glace du Port de Québec, si ça vous tente, qui est une expérience assez hot et unique. Vous faites du patin. Il y a un DJ, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. C'est super trippant. C'est sur le parterre de l'Agora du Port de Québec. Les espaces portuaires, c'est une initiative du Port de Québec. Je parlais de l'Agora, l'Oasis l'été, la baie de Beauport, la cale, la Disco Glace, je le disais, la Marina, le Village Nordique, les salles d'événements, le conteneur interactif, les terminaux et les quais où accostent les navires. Ça fait toute partie des espaces portuaires. Si vous voulez plus d'informations, parquebec.ca.
Pour un animal.
Hey, vous êtes à Boulevard 102.1. J'espère que vous allez bien. Quoi que ce soit, 88-971-102-1 texto. Je regarde la circulation et je suis pas jalouse, moi, vous dire. Il y a des problèmes sur Robert Bourassa Sud, hauteur, boulevard Hochelaga à votre droite et voie centre-droit qui sont bloqués. Accident, les services d'urgence qui sont déjà sur place. Et c'est lettre, mais vous le dire, là, c'est pas particulièrement beau sur les routes, autant sur Robert Bourassa Sud qu'ailleurs. Capitale, direction Est, ça se passe vraiment entre Henri IV et Laurentienne. Laurentienne, direction Sud, dans la bretelle pour aller chercher Capitale Ouest. Il y a un ralentissement qui n'a pas bougé depuis 14 heures. Il y a des problèmes également sur Charest, direction Ouest, hauteur Duplessis. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Wilfrid Hamel, on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis Sud, je vous dirais que ça se passe à peu près... en fait, un peu avant, mettons, chemin Sainte-Foy, là, semble y avoir un incident qui crée des problèmes sur Duplessis, là, ce qui fait en sorte que dans la bretelle Charest vers Duplessis Sud... dégueu, jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Un peu plus haut, dans le coin de Val-Bélair, Henri IV Nord, il n'y avait rien depuis le début de l'émission, mais là, entre, je vous dirais, Sainte-Geneviève et l'avenue industrielle, particulièrement bloqué. Si vous êtes sur route de Fossambeau entre Désérable et de la Jacques-Cartier, ça congestionne. Et la 20 direction ouest, la pause est terminée. Là. Il y a des problèmes vraiment entre la route du président Kennedy et Taniata. Évidemment, vous voyez autre chose, 88-971-1021. J'en profite pour vous rappeler qu'on est bien à l'extérieur. C'est un 4 degrés. Alternance soleil et nuages, plus nuageux qu'autre chose, mais dépendant d'où vous êtes, là, il y a comme un trou dans le ciel avec un petit peu de bleu. Puis d'après moi, ça va être un petit peu rose tantôt. Ça risque d'être magnifique. Ce soir et cette nuit, on est à moins 10. Des possibilités de neige, mais de pluie, de moins 8, neige intermittente et le soleil qui serait de retour vendredi avec 1 degré sur Québec. On a Mathias Turcotte qui est notre journaliste terrain qui est tout le temps partout, court à gauche, à droite pour nous ramener les meilleurs extraits pas possibles.
Toujours sous
l'actualité. Ah oui, puis il relaxe.
T'as tellement l'air tout le temps relax, Mathias. C'est vrai.
Je suis zen.
C'est vrai. Non, mais pour vrai, c'est vrai. T'es-tu stressé des fois?
des fois, mais ça se voit pas.
Non, mais je te regarde aller, puis t'es...
Mais je suis pas un gars stressé de base.
Non, ça, des ça fois, t'es comme, coudonc, il est tout de ses affaires, papa, tout... il va tout te livrer ce que tu veux.
Il est juste vraiment, il court pas après ça que ça va bien. T'es allé un peu plus tôt aujourd'hui.
Ouais, c'est ça, non, effectivement, Audrey.
Une par jour!
Ben oui, écoute, faut bien rire de temps en temps, là. Scrum de Bruno Marchand un peu plus tôt aujourd'hui, dans l'heure de 13h. Plusieurs dossiers qui ont été traités, qui sont revenus dans l'actualité hier et aujourd'hui. Commençons par le financement du tramway.
Oui, bien ça, c'est pas un dossier qui était traité hier ou aujourd'hui, mais c'est un dossier qui revient tout le temps, chaque fois que le maire Marchand prend la parole ces temps-ci. Parce qu'on a une opposition du côté de la Ville de Québec, en respect citoyen, qui depuis leur arrivée, bien passe certain à dénoncer le financement du tramway, puis que la part du fédéral n'est pas assurée à 40 % pour l'instant. Au cours des dernières semaines, Joël Lightbaum, qui est le ministre responsable de la Capitale-Nationale et du Québec du côté du fédéral, est venu sur nos ondes notamment pour dire que ça avançait les négociations avec Québec pour débloquer de l'argent pour le transport en commun. Parce que présentement, il y a une enveloppe qui est disponible du côté du fédéral que toutes les provinces présentement pigent dedans pour avoir de l'argent en transport en commun. Mais le Québec, on n'a toujours pas été capable de s'entendre avec le Canada sur quel montant on va avoir puis où va aller cet argent-là. Le gros questionnement, c'est quand cette entente va arriver, puis est-ce que l'argent va aller au tramway? Mm-hmm. Pour l'instant, tout semble bon signe. Joël Lightbaum ouvrait la porte également, et justement, on a questionné le maire Marchand sur ce sujet-là, cette ouverture de porte de la part de Joël Lightbaum. Le maire Marchand a même affirmé qu'il est allé jusqu'à contacter Mark Carney à propos de ce sujet-là.
J'ai entendu parler de ça. J'ai même appelé au bureau du premier ministre, j'ai même écrit
lequel?
Au du premier ministre du Canada pour du dire
Canada?
Qu'on avait besoin de cette entente-là.
Ah oui, parce que notamment... C'est quoi vous l'avez appelé, c'est récent, ça?
Non, on s'est texté la semaine passée, après que j'ai vu M. Girard. Après que j'ai vu Éric Girard pour les consultations prébudgétaires, pour dire le Québec s'apprête à déposer son budget. On a besoin d'avoir cette entente-là, notamment sur les transports collectifs, qui couvre le tramway, en tout cas, dépendamment de ce qu'ils négocieront, pour que ça soit dans le budget du Québec et qu'on puisse développer nos infrastructures de transport
au
Québec.
Vous êtes d'accord, ça marche, le premier ministre Carney, ou c'est pas trop facile?
Les deux me disent qu'ils y travaillent. Les deux parties me disent qu'ils y travaillent.
Il a l'air de bonne humeur, Bruno Marchand.
Ah oui, je ne sais pas s'il y a eu des vacances dans les derniers jours.
Je pense que oui, parce que ça fait 8 jours qu'il n'avait pas parlé aux médias.
Oui, ça faisait longtemps, pour vrai. C'est pour ça qu'on est revenu sur différents sujets. Puis il y avait d'air vraiment, vous m'avez qualifié de zen. Lui aussi, il y avait d'air plus zen aujourd'hui, plus calme, plus posé.
C'est peut-être ton influence.
Peut-être.
je pense que c'est plus ses vacances, on va pas m'en donner autant. Puis il a tenu à rappeler aussi que le financement, dans le cas d'un non-financement de 40 % à hauteur du fédéral, CDPQ Infra va embarquer. Là. Fait que le financement est il a répété que le financement est complété pour rassurer tout le monde, en gros.
Un autre dossier que vous avez discuté pendant le Scrum, c'est les terrasses des commerçants sur Grande Allée.
Oui, ça fait énormément de bruit hier, parce qu'on a... En gros, c'est un document, c'est un dossier initialement qui est sorti dans Radio-Canada, dans lequel on voyait le propriétaire de l'atelier, qui était d'ailleurs en entrevue hier midi également, Alexandre Grenier, qui est copropriétaire, justement, qui disait que cet été, comment que ça allait fonctionner sur Grande Allée, étant donné que René Lévesque allait être fermé une partie de l'été. Ce qu'on va faire sur Grande Allée, c'est que ça va être deux voies de circulation des deux côtés pour prendre le transit de René Lévesque et l'envoyer sur Grande Allée. Mais habituellement, l'été, c'est une voie de chaque bord, ce qui permet aux commerçants de prendre le trottoir puis de faire une terrasse,
une plus grande terrasse
supplémentaire.
Ben oui. Et là, ce ne sera pas possible.
Ce ne sera pas possible cette année. Par contre, différents commerçants de Grande Allée sont sortis avec des solutions, notamment des terrasses dans leur parking en arrière, de dire les soirs de fin de semaine, est-ce que ce serait possible faire une voie de chaque bord pour faire une terrasse temporaire? Puis le maire Marchand a été questionné sur ça et a démontré une très belle ouverture par rapport aux différentes propositions.
Mais pourquoi pas l'évaluer? Moi, je suis ouvert à tout ce qui peut faire en sorte qu'on soit agile. Si comme ville, on se dit, il y a des travaux du tramway, ça nous oblige à réorganiser certains éléments, notamment la circulation, c'est normal. Tout le monde s'attend à ça. Mais si de l'autre côté, on fait les mêmes règles demeurent, on ne bouge pas, ça prend 6 ans pour déposer un papier avec 28 000 times, puis 28 laissés passer à 38, on n'est pas bon. Alors, comme ville, ce que je m'attends, c'est qu'on soit agile, qu'on trouve avec eux des solutions. Tout n'est pas possible, on ne peut pas tout faire, mais on est capable d'être agile, puis je pense que dans les solutions qu'ils proposaient, il y a beaucoup de bonnes choses.
Mon Dieu, qu'il aurait mal paru de répondre autrement quand il demande, entre autres, à des entreprises d'être plus agiles justement avec leur horaire parce que les heures de pointe risquent d'être cauchemardesques avec les travaux dans le secteur de René Lévesque puis de Grande Allée. S'il avait été boqué tout de suite là, ça aurait été tough. Reste à voir dans quelle mesure ce sera réalisable, puis pour quel pourcentage des commerçants aussi. Tu sais, je comprends qu'il y en a certains qui l'ont l'espace en arrière pour pouvoir faire ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas ça pantoute ou qui n'ont pas les moyens financiers pour le réaménager temporairement, cet espace-là.
Mais on dirait que c'est peut-être moi qui ai rendu sceptique de cette façon-là de se prononcer, mais je trouvais que sa réponse était très... pourquoi pas? On va l'évaluer, tu sais, mais c'est très flou, plancé à l'air. Tout à fait, oui. Je peux dire ça, moi aussi.
Par contre, il y avait d'air ouvert dans le sens, il a même pris le temps de...
C'est la sincère.
Oui, il a même pris le temps de saluer la sortie de ces commerçants-là. Puis... c'est une chose que j'ai remarqué. Les commerçants, hier, sont sortis pas en critique par rapport aux travaux du tramway.
Ils sont sortis constructifs.
Ils sont sortis extrêmement constructifs. Ouais. Puis la réaction du maire face à cette sortie-là démontre... si vous voulez faire avancer des choses, ne critiquez pas l'administration. Mais ça vaut mieux.
Mais j'entends déjà sa réponse si ça ne fonctionne pas quand on va lui dire « Là, est-ce que vous êtes allé trop rapidement là-dessus? Est-ce qu'on est allé trop vite? Oui. Est-ce qu'on aurait dû attendre avant de répondre?
Oui.
Tout à fait.
Vous avez parlé aussi, en fait, de la sortie sur l'itinérance de l'UMQ.
Oui, l'Union des municipalités du Québec qui est sortie aujourd'hui sur l'itinérance. En gros, si on demande au gouvernement du Québec d'en faire une priorité nationale. C'est le terme qu'on a utilisé, d'avoir un financement prévisible puis d'avoir des données à jour. Bien sûr, Bruno Marchand, qui est président de l'UMQ.
Ça, c'est terrible parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Il y a eu des chiffres qui auraient dû sortir ce printemps-ci parce qu'on fait une évaluation de l'itinérance visible. On l'a fait au courant de la dernière année. Ça dure quelques nuits de temps. Mais malheureusement, on a choisi de repousser. Déjà que c'est très long entre le moment où on va chercher ces chiffres-là et le moment où on les rend publics, là, il y a encore un délai. Fait que c'est comme si les décisions se prenaient sur des chiffres qui étaient déjà rendus caducs, tellement que l'augmentation augmente de manière très marquée depuis quelques années.
Puis justement, Bruno Marchand, j'ai eu un petit lapsus, ça. J'ai dit qu'il était président de l'UMQ. Il est président du comité sur l'itinérance de l'UMQ. Justement, c'est prononcé en disant... parce qu'il s'est fait questionner. Ça fait plusieurs sorties que vous faites sur le sujet. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça va changer maintenant? Lui, ce qu'il a répondu, c'est que même si ça ne change pas, il faut continuer parce que la situation s'empire.
Bien, je ne sais pas si celle-là, c'est la bonne. Ce que je sais, par contre, c'est que nous, on n'abandonnera pas. Quand on voit... ce matin, j'étais avec une vingtaine de représentants des villes, villages, communautés du Québec. Il y a 20 maires, mairesses, parfois remplacés par leurs conseillers, conseillères, là, selon leur horaire, là, on est en réunion. Et le constat, il n'est pas juste le même depuis 4 ans, il est pire. La situation est pire. Quand la mairesse de Sherbrooke nous parle de 1000 personnes itinérantes dans sa ville, 1000, c'est le chiffre qu'on avait, nous, la Ville de Québec, au dernier décompte. Fait qu'imaginez une ville de la grosseur de Sherbrooke qui a le nombre d'itinérants qu'on avait, de personnes itinérantes. C'est vrai... à Sherbrooke, c'est vrai à Montréal, on le sait, on en entend parler. Je ne sais pas comment on peut faire comme gouvernement du Québec pour dire ben c'est pas une priorité. C'est comme ça dans toutes les villes et villages.
Puis on a parlé de Montmagny aussi, qui témoignait avoir, pour la première fois, des itinérants, avoir à gérer des campements d'itinérants. Fait que c'est un phénomène qui commence à se répandre. Puis c'est un enjeu qui touche de plus en plus tout le monde. Le gouvernement se doit donc d'agir. Puis c'est justement ce que Bruno Marchand témoigne. Il dit c'est facile de laisser la situation au vide, mais ça ne peut pas durer.
Mais c'est un des enjeux sur lesquels les responsabilités sont mal partagées entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Et ça fait des années qu'on en parle parce que l'itinérance est aux services sociaux. Là. C'est comme lié à ce ministère-là. Mais en même temps, c'est les villes qui les ont devant chez eux. Là.
C'est les villes qui doivent donner les services, qui doivent gérer l'impact sur la municipalité, mais ils n'ont aucun pouvoir sur le financement de l'aide qui est au-dessus de la tête, qui appartient justement aux services sociaux et santé. Puis là, ils sont dans une drôle de position aussi. Ils font des demandes à un gouvernement qui, actuellement, je comprends qu'on est encore en train de siéger.
Il se passe pour rien.
Exactement.
Il se passe plus rien là-dedans.
Fait que, tu sais, c'est... je comprends le message. C'est pas la première fois qu'il lance. Sauf que là, on a un gouvernement qui va changer de premier ministre au courant du prochain mois et demi, puis qu'ensuite de ça, va partir en élection, puis qu'il y a peu de chances d'être élu.
En fait, leur meilleure stratégie, c'est probablement d'essayer d'aller chercher des engagements électoraux.
De la part des autres partis.
Parce qu'il se passera... tu as tellement raison, Libéraux, il se passera pas grand-chose. Quoique, il y a un budget, normalement, qui va être présenté.
Oui, quand, hein? Ben, non, mais on en a parlé. C'est retardé présentement. On parlait même du 12 avril, peut-être après le 12 avril. Puis l'idée,
12 avril, c'est le moment où on va choisir le nouveau chef.
Ben, c'est ça, l'idée, ce serait peut-être de le faire juste un peu après pour faire comme si le nouveau chef avait eu son mot à dire au final, quand on sait que... Ça se fait pas en une semaine, le budget, on s'entend. Je passe au dernier sujet qu'on a traité. Le RTC dans Vanier, c'est un article qui est sorti dans le Journal de Québec aujourd'hui. Comme quoi, on perdrait de la desserte locale avec un nouveau tracé. En gros, on revoit un peu la façon de desservir le secteur de Vanier et de Saint-Sauveur. C'est un parcours à haute fréquence qui
est essentiel, là. Ce qu'on a choisi comme pôle à être desservi, là, c'est quelque chose qui aurait dû exister depuis plusieurs années à Québec.
Oui, ben c'est ça. Ça va relier le futur parc au bus Neuchâtel sur le boulevard Bastien en passant par les galeries de la capitale, Vanier et Saint-Sauveur. On dit que c'est pas un métrobus. Par contre, Thomas Marchand, aujourd'hui, il a tenu à dire qu'il travaille très fort pour que ce soit un métrobus, ce parcours-là. Mais ce que ça fait, c'est que ça entraîne des modifications de différents parcours, puis le retrait de parcours 64 et 65 qui assurait une desserte un peu plus locale. Fait qu'on perd un peu plus de local pour de l'efficacité. Puis c'est justement ça que Bruno Marchand a voulu apporter aujourd'hui. Il comprend les craintes, mais en même temps, le RTC, son rôle, c'est de réviser les différents tracés.
Quand on augmente les services, ça veut dire aussi qu'on accepte de les remettre en question. Trop longtemps, on a vécu dans des pouvoirs publics qui en ajoutaient sans jamais en enlever. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que le coût monte, puis la desserte, on n'est plus capable tant de l'améliorer que ça. Alors, pour l'améliorer, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire des choix. Et alors, je soutiens le RTC là-dedans. Qu'on abandonne des parcours, qu'on les modifie, c'est attendu. C'est ce qu'on a fait dans Cap-Rouge, c'est ce qu'on a fait dans Loretteville quand on a mis le nouveau métrobus. S'améliorer, s'adapter, adapter notre offre de service, même la bonifier, ça suppose aussi qu'on laisse tomber des choses, puis c'est ça qui va arriver dans Vanier. Mais au final, Vanier est mieux desservi.
Par contre, ce que certains citoyens soulignaient, c'est qu'il y avait eu peu de consultations dans cette prise de décision-là. Peut-être qu'encore une fois, les communications de la Ville de Québec, je rentre les communications du RTC là-dedans, on est beaucoup en réaction plus qu'en action. Au lieu d'aller se chercher des alliés, on se retrouve dans des positions où on doit toujours se défendre des décisions qu'on a prises.
Puis j'ai envie de dire, c'est pas juste du côté de la Ville de Québec. On a l'impression qu'au cours des dernières années, que ce soit le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral ou la Ville de Québec, on n'est pas capable d'aller consulter les acteurs locaux au moment de prendre des décisions. Les conseils de quartier de Saint-Sauveur puis justement de Vanier, c'est ça qu'ils ont dit, ils n'ont pas été consultés. C'est la même affaire du côté du provincial pour le troisième lien qu'on n'a consulté personne sur les deux rives lorsqu'on a décidé de faire un tracé. Je veux dire, à un moment, effectivement, lorsqu'on prend des décisions, même si ces décisions-là ont une justification derrière.
Tu vas jaser.
Tu t'assures
que quand tu sors, tu es plus d'alliés que d'opposants, puis ça va amener beaucoup plus d'adhésion à ces décisions-là.
Mathias, t'es allé jaser avec le maire Bruno Marchand pour le scrum qu'il y avait un peu plus tôt aujourd'hui. Juste vous dire que demain matin, ils vont avoir un petit 10 minutes avec le maire Marchand vers 8h40 pour lui jaser, entre autres, de la sortie là, de l'UMQ, mais ils vont essayer de parler en même temps de l'annonce qui va se faire demain à 10h. Tu vas y aller, Matt?
Oui, demain à 10h, dans le fond, c'est une annonce sur le secteur Saint-Roch. Si vous vous souvenez bien, durant la campagne électorale, le maire Marchand avait promis un plan d'action concret, 100 millions de dollars investis dans Saint-Roch. Là, je tiens à réduire un peu les attentes. De ce qu'on nous a dit, on n'annonce pas le 100 millions investis.
C'est une tranche qu'on annonce demain.
C'est ça, exact. C'est quelques mesures temporaires qu'on va mettre en place en attendant d'avoir des contrats, des ententes avec le gouvernement provincial et fédéral pour des projets de plus grande envergure.
Tu restes avec nous?
Yes!
Faut savoir qu'au retour de la pause, Mathias a travaillé sur un dossier à savoir si on vit une situation économique qui est si pire que ça au Québec. Il a parlé avec plusieurs économistes, entre autres. Peut-être vous aurez des choses à dire. 88-971-1021. Rapidement saluer Sébastien Bélé-Caron qui est notre gagnant cette semaine. Le pôle d'hockey boulevard 102 et fromagerie Victoria qui se poursuit. Donc, un gagnant qui a 200$ à la fromagerie Victoria et chez Allô Mon Coco. À tous les premiers mercredis du mois, il y a un gagnant qui est choisi au hasard parmi le top 20 des meneurs du pool. Donc, surveillez ça directement sur la page concours du blvd.fm. Et la semaine prochaine, on aura un autre gagnant pour vous. On revient dans quelques minutes à Boulevard 102.1. Restez là.
Gravel.